Bienvenue sur BetaFinch, votre analyse des résultats d'entreprises générés par intelligence artificielle. Je suis Alex, et je suis accompagné de Jordan, mon co-animateur. Jordan, merci d'être là.
Toujours un plaisir, Alex. Qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui ?
Alors, ce podcast est un contenu généré par intelligence artificielle à des fins éducatives et de divertissement uniquement. Rien de ce que nous discutons ne doit être considéré comme un conseil en investissement. Faites toujours vos propres recherches et consultez un conseiller financier qualifié avant de prendre des décisions d'investissement. Et cela dit, nous plongeons dans Illinois Toolworks. Jordan, honnêtement, c'est un trimestre spectaculaire.
C'est vraiment impressionnant, Alex. Commençons par les chiffres clés. ITW a publié une croissance organique de 4,5%, ce qui dépasse déjà les attentes. Mais l'histoire devient encore meilleure quand on regarde la rentabilité. La marge d'exploitation s'est dilatée à 26,7%, et écoutez ceci, le résultat net par action GAAP a augmenté de 10% à $2,84.
Et ici, le vrai kicker, c'est le résultat d'exploitation. Il a atteint $1,15 milliard, ce qui représente une augmentation de 7,4%. Michael Larson, leur directeur financier, l'a souligné, c'est le trimestre le plus rentable de l'histoire d'ITW.
Exactement. Et cela n'arrive pas par hasard. Si vous regardez les segments de capital investissement, c'est là où la vraie dynamique se manifeste. La soudure a enregistré une croissance organique de 14%, ce qui est extraordinaire. Le test et mesure a atteint 10%, et les polymères et fluides 7%.
Maintenant, ce qui m'a vraiment frappé en lisant la transcription, c'est cette métrique appelée Customer Back Innovation, ou CBI. Ont-ils dit que cela contribuait à 3% de la croissance au premier semestre ?
Oui, et c'est important parce que cela dépasse réellement leurs propres attentes. Chris O'Herlihy, le PDG, a mentionné qu'il visait à long terme une contribution de 2 à 3% du CBI. Être à 3% sitôt suggère que leurs efforts d'innovation produits fonctionnent réellement. Et voici la partie clé, c'est incité dans la rémunération de tous leurs dirigeants, du niveau des divisions jusqu'à la direction générale.
Donc, ce n'est pas juste une métrique vaniteuse. C'est quelque chose qu'ils mesurent activement, et cela vaut pour les 3 premières années. Après cela, vous devez avoir de nouveaux produits, sinon le nombre chute. C'est un système de discipline rigoureuse.
Absolument. Et regardez ce qui se passe avec les marges. Ces nouveaux produits entrent à des marges plus élevées, ce qui signifie que la croissance organique et les initiatives d'entreprise fonctionnent ensemble. Parlons maintenant de la trésorerie. Ils ont augmenté les flux de trésorerie disponibles de 41%.
Et ensuite, ils ont retourné plus de $1,2 milliard aux actionnaires via les dividendes et les rachats d'actions. Ils ont même avancé 750 millions de dollars de rachats prévus pour le trimestre 3. Cela montre une confiance réelle dans leur position.
Cela m'amène à la guidance. Ils ont relevé à la fois le haut et le bas du bilan. La croissance organique pour l'année complète est maintenant guidée à 3% à 4%, avec un point médian de 3,5%, ce qui représente une augmentation de 1,5 point de pourcentage par rapport aux indications précédentes.
Et pour le EPS GAAP, ils ont augmenté de $0,15 à une fourchette de $11,35 à $11,55, avec un point médian de $11,45. C'est une croissance de 9% d'une année à l'autre. C'est la deuxième augmentation de guidance du trimestre.
Ce qui me fascine, c'est la confiance qu'ils affichent. Pendant le QEA, les analystes posaient des questions sur le « plafond naturel » de la croissance ou si les marges allaient stagner, et Chris et Michael répondaient simplement « non, il y a plus à venir ». Et ils ne parlaient pas à partir du néant.
Exactement. Ils regardent les carnets de commandes. Dans le test et mesure, les commandes surpassent la croissance des revenus, ce qui suggère que la demande est plus forte qu'ils ne peuvent actuellement en remplir. Ils investissent activement en capacité pour rattraper cela.
Et il y a eu ce moment intéressant dans le QEA où on a posé des questions sur la soudure. Ce segment affiche des marges de 32,4%, ce qui est de classe mondiale. Un analyste a demandé si c'était un plafond naturel. Et la réponse était, non, regardez la marge sur les incréments. Nous devons nous attendre à plus.
Mais ils ont mentionné un problème auquel faire face. Il y a eu une tempête qui a endommagé deux installations de soudage à Appleton, au Wisconsin, hier. Une usine de fabrication et un bâtiment d'entrepôt. Heureusement, tous les employés sont sains et saufs.
Et ils ont dit qu'ils ne s'attendent à aucun impact matériel sur l'ITW. Ils exécutent déjà des plans de contingence. C'est une bonne illustration de leur résilience opérationnelle.
Maintenant, il y a eu un segment qui a lutté, les produits de construction. Il y a eu une croissance organique de 2%, ce qui est positive mais plus modéré. Et franchement, c'est logique. L'activité de construction résidentielle n'a croît que de 1%. Mais les produits commerciaux étaient forts, en hausse de 13%.
Oui, et les produits spécialisés ont eu un trimestre plus difficile avec une croissance de 2%, mais cela a été en grande partie dû à ce qu'ils appelaient le « lissage du portefeuille », en essentiellement, se débarrasser des produits de faible valeur. Ce n'est pas une mauvaise chose.
Un point sur lequel je veux vraiment revenir, les marges. Michael Larson a parlé d'une marge d'exploitation implicite de 40% pour l'année complète. Mais il y a ce problème de décalage prix-coût. En second quarté, cela avait un impact de 40 points de base négatif.
Et voilà la chose intelligente à ce sujet. Ce décalage venait principalement des dérivés du pétrole brut, résine, produits chimiques. Mais il a souligné que les prix du pétrole brut et des résines baissent maintenant au third quarté, et les augmentations de prix se répercutent. C'est temporaire. D'ici le fourth quarté, cet impact se réduit davantage.
Donc, si vous retirez ce décalage prix-coût, les marges incrémentales auraient été plus proches de 40 à 50 points de base. Et ils s'attendent à revenir à la normale l'année prochaine avec 40 à 45 points de base.
Cela me ramène à la véritable histoire ici. ITW fait preuve de discipline dans deux domaines clés, 1. Le portefeuille. Ils font du PLS portefeuille, leadership, stratégie depuis des années. 2. L'exécution opérationnelle. Cette 80/20, cette mentalité Kaizen, s'est ancrée dans leur ADN.
Et maintenant, ajoutez à cela cette accélération de l'innovation produit avec le CBI. Vous regardez une entreprise qui a une croissance de 4,5%, des marges de 26,7%, une trésorerie libre croissante de 41%, et elle affirme que tous les 7 segments vont croître et élargir les marges au second semestre.
C'est rare de voir cela. La plupart des entreprises font face à des compromis, croissance versus marge, croissance versus génération de trésorerie. ITW fait les trois. Et regardez où ils vont. Leur cible à 2030 est une marge d'exploitation de 30% pour l'ensemble de l'entreprise. 3 de leurs 7 segments sont déjà à ou au-dessus de 30%.
Donc, je pense que le point clé pour les investisseurs est celui-ci, vous regardez une entreprise qui fait ce qu'elle dit qu'elle va faire, qui a relevé la guidance 2 fois cette année, et qui a une visibilité réelle sur la demande future basée sur les carnets de commandes qui surpassent la croissance des revenus.
Et franchement, c'est un contraste frappant avec bon nombre d'autres entreprises que nous avons couvertes. Beaucoup d'entre elles parlent de ce qui pourrait arriver. ITW parle de ce qui se passe réellement. Les carnets de commandes sont à la hausse. La capacité est en augmentation. Les nouveaux produits arrivent à des marges plus élevées.
Une dernière chose, ils n'abandonnent pas les acquisitions. C'est une approche active mais disciplinée. Ils ont fait une petite acquisition dans l'espace de la fabrication semi-conductrice l'année dernière. Mais fondamentalement, compte tenu de la croissance organique qu'ils peuvent capturer, ils sont disposés à attendre les bonnes opportunités.
Absolument. Et pour conclure, tout ce qui a été discuté est une analyse générée par IA à des fins éducatives. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Veuillez faire votre propre diligence raisonnable. Vous ne devriez pas baser les décisions d'investissement uniquement sur cet épisode.
Merci d'avoir écouté Beta Finch. Je suis Alex, c'est Jordan. Nous vous verrons la prochaine fois pour une autre analyse de résultats. À bientôt.
Au revoir, tous.